Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À travers ces quelques pages du roman de Zola, La débâcle, que nous avons écouté dans les trois premiers jours de la semaine, nous avons eu une vision plutôt externe de cet épisode tragique que fut la Commune. Je vous propose de passer à un point de vue plus interne avec quelques pages extraites de l'œuvre de Jules Vallès, L'insurgé, qui nous plonge directement dans la Commune. Cette œuvre se présente sous la forme d'une sorte de journal qui met en scène un personnage appelé Vintras, qui avait déjà été présenté par Jules Vallès dans ses deux œuvres précédentes, L'enfant et Le bachelier. Nous retrouvons donc Vintras dans L'insurgé. 18 mars. Papa, qui est là ? C'est un des trois amis qui savent ma cachette. Il est essoufflé et pâle. Qu'y a-t-il ? Un régiment de ligne a passé au peuple. Alors, on se bat ? Non, mais Paris est au comité central. Deux généraux ont eu ce matin la tête cassée par les chassepots. Où ? Comment ? L'un avait commandé le feu contre la foule. Ses soldats se sont mêlés aux fédérés, l'ont entraîné et massacré. C'est un sergent en uniforme de fantassin qui a tiré le premier. L'autre, c'est Clément Thomas, qui venait espionner et qu'un ancien de Juin a reconnu. Au mur aussi. Leurs cadavres sont maintenant étendus, troués comme des écumoires, dans un jardin de la rue des Rosiers, là-haut, à Montmartre. Il s'est tué. Allons. C'est la révolution. La voilà donc. La minute espérée et attendue depuis la première cruauté du père, depuis la première gifle du cuistre, depuis le premier jour passé sans pain, depuis la première nuit passée sans logis. Voilà la revanche du collège, de la misère et de décembre. J'ai eu un frisson tout de même. Je n'aurais pas voulu cette tache de sang sur nos mains, dès l'aube de notre victoire. Peut-être aussi est-ce la perspective de la retraite coupée, de l'inévitable tuerie, du noir péril qui m'a refroidi les moelles, moins par peur d'être compris dans l'hécatombe que parce que me glace l'idée que je pourrais un jour avoir à la commander. Vos dernières nouvelles sont de quand ? D'il y a une heure. Et vous êtes sûr qu'on ne s'est point battu, qu'il n'a surgi rien de nouveau ni de tragique depuis la fusillade de tantôt. Rien. Comme les rues sont tranquilles. Nul vestige n'indique qu'il y ait quelque chose de changé sous le ciel, que des Brutus à 30 sous par tête aient passé le Rubicon contre un César Nabo. Qu'est-il devenu à propos, le foutriquet ? Où est Thiers ? Personne ne peut répondre. Les uns pensent qu'il se cache et s'apprête à fuir, d'autres qu'il se trémousse dans quelque coin et donne des ordres pour que les forces bourgeoises se rassemblent et viennent écraser l'émeute. La place de l'Hôtel de Ville est déserte. Je croyais que nous la trouverions bondée de foule et frémissante, ou toute hérissée de canons, la gueule tournée vers nous. Elle est au contraire muette et vide. Il n'y a pas encore de gars d'attaque là-dedans. Pas même le téméraire qui, avec l'audace de sa conviction, fait prendre feu à tout le forum, comme l'allumeur à tout un lustre. La cohue se tient sur les bords, en cordon de curiosité et point en cercle de bataille. Il est propos d'aller leur train. La cour est pleine d'artillerie, les canonniers attendent, mèches allumées, souvenez-vous du 22 janvier. Si l'on fait un pas en avant, portes et fenêtres s'ouvrent et nous sommes foudroyés à bout portant. Voilà ce qui se dit autour de la place que la nuit envahit déjà, et où je crois voir se dresser sanglante les silhouettes des deux généraux. Mais un citoyen accourt. La rue du Temple est occupée par Ranvier. Brunel a passé son bataillon rue de Rivoli. Ranvier et Brunel sont là. J'y vais. Logez donc les murs. En cas de décharge, il y a moins de danger. Ma foi non. S'il y a des mitrailleuses dans le préau et des mobiles bretons derrière les vitres, on le verra bien. Et nous brisons à quelques-uns le cordon. Nous enlevons trois grains au chapelet des hésitants, d'autres grains nous suivent, quittent le filet et roulent avec nous. Voici en effet Brunel en grande tenue, mais il est déjà sous la porte avec ses hommes. Je cours à lui, il m'explique la situation. Nous sommes maîtres du terrain. Même s'il se reforme sur quelques points que nous ne connaissons pas et s'il nous attaque, nous pourrons tenir assez longtemps pour que le comité central arrive avec du renfort. Ranvier est en effet à côté, ainsi qu'on vous l'a dit. On assure que Duval est descendu avec les gens du 5e et du 13e sur la préfecture. Si ce n'est pas vrai, on doit lui intimer l'ordre de se mettre en marche. Par exemple, il faut que la rue du Temple soit gardée sur le pied de guerre toute la nuit. J'ai été soldat et je suis pour la discipline des émeutes contre celle des casernes. Allez donc trouver Ranvier, vous qui êtes son meilleur ami, et transmettez-lui en camarade ses observations. Moi, je ne puis guère. J'aurais l'air de vouloir jouer au commandant. Entendu. Il est là, le pâle, faisant construire une barricade. Eh bien, ça y est, regarde! Une ligne noire de baïonnettes, toute une file d'hommes muets, c'est l'armée de Duval, silencieuse, comme l'armée d'Animal ou de Napoléon, après la consigne donnée de passer inaperçu le Saint-Gothard ou les Alpes. Le peuple est sur ses gardes. La nuit est sûre. Mais demain, au lever du soleil, il lui faudra un furieux coup de clairon. Et j'ai été réveillé un copain. Le cri du peuple va renaître. Allez avertir Marcel, voyez pour le papier à l'imprimerie, vite une plume que je fasse mon premier article. Et je me suis attablé. Mais non, je n'ai point écrit. Le sang bouillonnait trop fort dans mes veines. La pensée brûlait les mots dans ma cervelle. Mes phrases me paraissaient ou trop déclamatoires ou indignes dans leur simplicité du grand drame sur lequel vient de se lever le rideau qui a comme un rideau de théâtre deux trous, fait par les deux balles qui, paraît-il, ont frappé en plein front chacun des exécutés. Quand mes artères ont été plus froides, quand la croisée ouverte, je me suis accoudé et plongé mon regard dans la cité, son sommeil et son calme m'ont fait peur. La ville ne serait-elle pas d'accord avec la révolte? La fusillade des généraux aurait-elle, en traversant les cibles humaines, atteint au cœur le Paris qui n'est pas sur la brèche? L'insurrection serait-elle seulement l'œuvre de quelques chefs et de quelques bataillons audacieux? Pourquoi n'y a-t-il pas un tressaillement, un bruit de pas, un froissement d'armes? Si je descendais et retournais du côté des rebelles vers le troupeau noir de Duval, vers la barricade grise de Ranvier, allons. J'ai encore, moi, le défenseur des humbles, l'inquiétude des redingotiers devant les noms obscurs. Et j'ai fermé ma fenêtre sur la ville impénétrable et qui semble morte, alors qu'on la dit ressuscitée. J'ai fermé ma fenêtre et mon cerveau s'est muré également. Les idées ne venaient plus. Je passais sur un canapé qui montrait ses entrailles de crin les heures que j'aurais dû passer debout ou couché en chien de fusil, prêt à la détente sur un lit de camp. Au matin, j'ai couru chez les intimes. Eux aussi, ils ont attendu, stupéfiés par le coup de foudre de Montmartre. Et cependant, parmi ses compagnons, il en est de braves, comme des épées. Cela me rassure et me raccommode avec ma conscience inquiète. Ce n'est pas devant le péril que mes amis et moi nous avons reculé toute une nuit. C'est devant une moitié de victoire gagnée sans nous et que nous pouvions perdre en entrant en ligne trop tard. Je me dirige vers l'hôtel de ville. Où siège le comité central? En haut et à droite. Je marche en enjambant par-dessus les hommes endormis et affalés comme des bêtes fourbues sur les marches de l'escalier. Ils me rappellent les bœufs tombés dans les rues pendant le siège et dont la lune éclairait les grands corps roux. Plusieurs de ceux qui, depuis la veille, à l'aube, étant sur pied, ont fait leur devoir et la corvée, qui, après avoir harcelé de leurs baïonnettes le poitrail des chevaux montés par les gros épaulettiers de Vinoy, ont, le soir, taillé le pain, distribué les vivres. Plusieurs de ceux-là ont arrosé leur charcuterie et leur lassitude d'un peu de vin qui les a ragaillardis. Et ils ont une pointe. Mais pas un qui ne puisse sauter sur son fusil, viser et faire feu, si Moreau ou Durand ou Lambert, voilà les noms de leurs généraux, se mettaient à crier que Ferry revient avec un Ibos et un 106e comme au 31 octobre, aux armes. Tous laisseraient le gobelet d'étain pour prendre l'écuelle à cartouche et piqueraient non plus dans le petit salé de faubourg avec le couteau de 13 sous, mais dans le gras double des bourgeois avec la fourchette à une dent qui est au bout du flingot. Mais pour l'instant, rien qui sente la colère, ni même qui embaume l'enthousiasme. On dirait d'un régiment qui a reçu permission de pioncer sur le perron d'une préfecture, faute d'assez de billets de logement, et à qui on a dit de s'organiser, tant bien que mal, pour la soupe, le feu et la chandelle. Où est le comité central? Le comité? Il est égrené dans cette pièce. L'un écrit, l'autre dort. Celui-ci cause, assis à moitié sur une table. Celui-là, tout en racontant une histoire qui fait rire les voisins, rafistole un revolver qui a eu la gueule fendue. Je n'en connais aucun. On me dit leur nom. Je ne les ai pas encore entendus. Ce sont des délégués de bataillons, populaires seulement dans leur quartier. Ils ont eu leur succès d'hommes de parole et d'hommes d'action dans les assemblées, souvent tumultueuses, d'où est sortie l'organisation fédérale. Je n'ai point assisté à ces réunions, étant forcé de me cacher avant et après ma condamnation. Ils sont 6 ou 7, pas plus, en ce moment, dans cette grande salle, où l'Empire, en uniforme doré et en toilette de gala, dansait il n'y a pas déjà si longtemps. Aujourd'hui, une demi-douzaine de garçons à gros souliers avec un képi à filet de laine, vêtus de la capote ou de la vareuse, sans une épaulette ni une dragonne, sont sous ce plafond à cartouches fleurdelisées, le gouvernement.
Ornant largement la muraille, 20 drapeaux rouges assemblés, cache les trous de la mitraille dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle que la sculpture des tombes que bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture des morts enterrés sans cercueil. Ce gazon que le soleil dort, quand m'essor des bois réveillés, ce mur que l'histoire décore, qui saigne encore. c'est le tombeau des fusillés. C'est le tombeau des fusillés. Autour de ce tombeau sans bronze, le prolétaire au nez des lois, des héros de 71 écoutent chanter les exploits. Est-ce la tempête ou la houle montant à l'assaut d'un écueil? C'est la grande voix de la foule consolant les morts sans cercueil. Écoute, bon bourgeois qui tremble, pleurant ceux qu'on croit oublier. Le peuple tout entier s'assemble et vient ensemble près du tombeau des fusillés. Près du tombeau des fusillés. Loup de la semaine sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient. Du peuple, la justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils fera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil. Tremblez, les lions qu'on court se mordent quand ils sont réveillés. Fleurs rouges écloses dans la mousse, l'avenir pousse sur le tombeau.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
L'insurgé, Jules Vallès. À peine ils s'aperçoivent qu'un étranger est entré. Ce n'est qu'au bout de 5 minutes de rôderie que je me décide à approcher du récureur de pistolets, qui du reste ne rit plus et dit d'une voix ferme à un nouvel arrivé « Ah mais non, on veut encore escamoter la révolution, j'aimerais mieux me faire sauter le caisson que de signer, je ne signe pas !» Il me voit. Et m'interpellant brusquement, « Est-ce que vous êtes aussi un délégué des mairies, vous ?»« Non, je suis le rédacteur en chef du Cri du Peuple. » »« Et vous ne disiez rien, et vous restiez là, comme le dernier venu. » »« Je suis le dernier venu, en effet. » »« Je n'ai été ni avec les fusilleurs hier matin, ni avec les barricadiers hier soir. » »« Je lui avoue mes hésitations, comment je suis resté sur la défensive. » « Je comprends, dit-il, notre obscurité nous rend suspects. Mais il y a derrière nous un 500 000 d'obscurs, armés, et cela nous suivront. »« En êtes-vous sûr ?» reprend l'interlocuteur qui a été lâché pour moi. « Bon valet, maire du troisième, un petit boulot qui paraît très animé et élève le ton comme un parlementaire qui pose des conditions ou transmet un défi. Êtes-vous sûr ?» que la population vous suivra, comme vous le dites. Nous venons vous proposer, nous, Ligue des droits de Paris, de mettre le pouvoir en dépôt dans nos mains, rien qu'en dépôt, pour qu'on ait le temps de voir venir. Bon, les copains feront ce qu'ils voudront. Moi, je retourne dans mon arrondissement, je me cantonne dans votre boîte et je vous défends d'y entrer. Voilà. Mais sans nous, vous ne serez rien. Mais vous-même, qu'êtes-vous donc? Vous croyez que toute la municipaillerie et toute la députasserie pèsent une once aujourd'hui? Certes oui, si elles étaient mises à la tête du mouvement. Elles nous auraient même volés, fourrés dedans. Nous étions fichus, nous les socialistes, si les élus de la ville étaient entrés dans le branle, flambés la commune. Puis se mettant à rire, mon cher, allez dire à vos patrons que nous sommes ici par la volonté des gens de rien. Et nous n'en sortirons que par la force des mitrailleuses. Alors, c'est votre dernier mot ? Vous pouvez consulter les autres si ça vous plaît, mais je ne vous répète là que ce que nous avons dit cette nuit, tous en bloc. Au même moment, un peloton d'hommes sans armes est entré. Quelques-uns bâillant, tout ébouriffés, d'autres agitant des paperasses, l'œil allumé, tapant sur les feuilles, comparant les pages. C'était le noyau du comité qui venait de recevoir des nouvelles et de décider la réponse aux députés. « La paix ou la guerre ?» a demandé Bonvalet. « Cela dépend de vous. Ce sera la paix si vous n'êtes pas des entêtés et des orgueilleux, si les représentants du peuple acceptent qu'on en appelle au peuple. Nous consentons à rester dans les souliers de votre tradition, mais ne barguignez pas, ne biaisez pas et ne trahissez pas. » Vous avez l'air de ne faire que ça. Et maintenant, mon gros, laissez-nous tranquilles, nous avons à fouiller nos poches. Il faut 1 million pour nos 300 000 fédérés. J'ai 10 francs. Eh bien, il n'y a qu'à défoncer les caisses. Oui, pour qu'on nous accuse de pillage et de vol. Et des exclamations de frayeur. Un mouvement d'hésitation. Un effroi de pauvre, un tremblement de ces mains noires qui n'ont jusqu'ici touché que l'argent du travail au soir de paix et qui ne veulent pas toucher à des billets de banque en tas, à des monceaux d'or mis sous clé. Mais il faut pourtant bien fournir la solde aux gardes nationaux, leur conserver leurs 30 sous. Que diraient les femmes ? Si la bourgeoise se met contre nous, le mouvement est enrayé, la révolution est perdue. C'est vrai. Et le pire, ce qui est plus à craindre encore, c'est qu'il y aura des indisciplinés qui iront en bande prendre le pain qu'il leur faut et plus de vin qu'il ne faudra. Ils forceront les portes au gré de leur appétit ou de leur soif, à la suffisance de leur colère. Et il y aura 300 canailles ou étourneaux qui feront passer les communards pour un ramassis de 300 000 coquins. Mais il n'y a peut-être pas de quoi régler 2 journées dans ces malheureux coffres. Mais quand il n'y aurait que pour 24 heures, c'est ce temps-là qu'il faut gagner. Tout nous retombera sur la tête, mais elles tiennent si peu aux épaules nos têtes. Pour mon compte, j'accepte de faire la première pesée. Qu'en dis-tu, Varlin ? Allons chercher les pinces. L'abîme est définitivement creusé comme avec une pioche de cimetière. Ce crochetage de serrure engage le comité autant que la fusillade des généraux. Toute la race de ceux qui ont 4 sous, les honnêtes gens de toute classe et de tout pays, vont lancer sur ce foyer de pilleurs malédictions, bombes et soldats. Je rencontre Ferré. Tu sais ce qu'ils viennent de décider ?
Ouais.
Et tu trouves qu'ils marchent ? Ils ont osé rédiger un procès-verbal pour renier l'exécution de Lecomte et de Thomas. Déjà le peuple est désavoué, et c'est toi qui as imprimé le désaveu dans ton canard. Tu es aussi un de ceux qui ont réclamé l'élargissement de Chanzy. Tu vas bien, a-t-il ajouté avec amertume. Alors tu cries à la trahison ?
Non.
Mais les trahisons se châtient, tandis que les faiblesses s'excusent. Mieux vaudrait des criminels et point des hésitants. Le jardin de l'hôtel de ville est bien aussi grand que celui des rosiers. Qu'ils prennent garde. Le cri du peuple a reparu.
Demandez le cri du peuple par Jacques Vintras.
Il est 2 heures de l'après-midi et déjà 80 000 pages se sont envolées de l'imprimerie sur cette place et sur les faubourgs.
Demandez le cri du peuple par Jacques Vintras.
On n'entend que cela. Et le marchand n'y peut suffire. Voulez-vous mon dernier, citoyen ? Pour vous, ce sera 2 sous, fait-il en riant. Vrai, ça les vaut.
Ben voyons.
26 mars. Quelle journée ! Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons. cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle, comme une rivière bleue. Ces tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées d'espoir, ce parfum d'honneur. Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. Ô grand Paris ! Lâches que nous étions, nous parlions déjà de te quitter et de nous éloigner de tes faubourgs qu'on croyait morts. Pardon ! Patrie de l'honneur, cité du salut, bivouac de la révolution. Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Clairons, sonnez dans le vent. Tambour, battez aux champs. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris, et toi, marmot, qui joue aux billes derrière la barricade. Viens, que je t'embrasse aussi. Le 18 mars, te l'a sauvé belle, gamin. Tu pouvais comme nous grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, avoir de l'indicible douleur d'être déshonoré. C'est fini. Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage. Fils d'être désespéré, tu seras un homme libre. Moi, j'ai du bonheur pour mon argent. Par-dessus mon épaule, un ou deux fédérés essaient de lire en disant d'un air entendu « Oh, il a tout de même le fil, ce sacré 20 traces. Vous ne trouvez pas, citoyen ?» Je ressens une ivresse profonde perdue dans cette multitude qui me jette aux oreilles tout ce qu'elle pense de moi. Ma réserve quand on frappe sur le journal en disant « Est-ce tapé là, voyons ?» me vaut même de la part des enthousiastes qui me trouvent tiède, des mous de colère et aussi des bourrades sournoises qui me cassent les côtes mais me rapiècent le cœur. Il me semble qu'il n'est plus à moi ce cœur qu'ont écorché tant de laides blessures et que c'est l'âme même de la foule qui maintenant emplit et gonfle ma poitrine. Oh ! Il faudrait que la mort vînt me prendre, qu'une balle me tuât dans cet épanouissement de la résurrection. Je mourrai aujourd'hui en pleine revanche. Et qui sait ce que demain la lutte va faire de moi ? Jadis, mon obscurité masquait de noir mes faiblesses inconnues. Maintenant, le peuple va me regarder à travers les lignes qui, comme les veines de ma pensée, courent sur la feuille de papier gris. Si ma veine est pauvre, si j'ai du sang blanc, mieux valaient les coups de pied de vache de la misère, les portions à 4 sous, les faux cols en carton, les humiliations innombrables. On avait au moins une âpre jouissance à se sentir le plus fort dans le pays de la détresse à être, pour pas trop cher de vaillance et parce qu'on avait appris le latin, le grand homme de la gueuserie sombre. Et voilà qu'à cette heure d'évasion, je me trouve comme tout nu devant 500 000 de braves gens qui ont pris les armes pour être libres et pour qu'on ne crevât plus de faim, malgré le travail ou faute de travail. Tu as crevé de faim, 20 traces, et tu as presque chômé pendant 15 ans. Tu as dû alors, pendant les moments durs, tu as dû songer aux remèdes contre la famine et ruminer les articles frais d'un code de justice humaine. Qu'apportes-tu de nouveau du fond de ta jeunesse affreuse ? Réponds, pauvre d'hier. J'ai à répondre en montrant mes poignets cerclés de bleu et ma langue tuméfiée par les coups de ciseaux de la censure impériale. Réfléchir, étudier, quand ? L'Empire tombé, le Prussien est venu. Le Prussien, Trochu, Favre, Chaudet, le 31 octobre, le 22 janvier, on avait assez à faire de ne pas mourir de froid ou d'inanition et de tenir en joue la défense nationale tout en tenant tête à l'ennemi, toujours sur la brèche, aux aguets ou en avant. Allez donc peser les théories sociales quand ils tombent de ces grêlons de fer dans le plateau de la balance. Voilà donc pour ce soir, ce premier extrait de L'insurgé de Jules Vallès que nous retrouverons demain pour finir la semaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.